tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.
Science, friction. Vous êtes sur Divergence FM et vous écoutez Science Friction, une émission d'Alain Vattier et de Jean Ibanez. Eh bien, bonsoir à vous, bonsoir Alain.
Bonsoir Jean, bonsoir tout le monde.
Alors on se retrouve Alain pour reparler à nouveau de La Servante Écarlate.
Absolument.
Hein, une série télé très belle, très esthétique, en même temps assez éprouvante hein, sur le plan, c'est un peu un thriller aussi, hein, il y a un peu cette dimension-là quand même.
Et puis c'est un univers qui est dur.
Ah, c'est un univers qui est violent, qui est dur, en même temps qui est sur le plan esthétique très bien filmé, avec un vrai souci sur les images, sur les...
Voilà, le sur cadrage, la couleur, ouais, les cadres, textures.
Voilà, hein, tout ça, c'est vraiment très beau. Et c'est rare qu'il y ait à ce point un souci de l'image avec une sensualité très grande, sans cliché en fait. C'est ça qui est étonnant parce que, bon, voilà, c'est pas des films clichés comme on a pu voir dans le passé, L'odeur de la papaye verte, etc.
Des films. Un beau film quand même.
Ouais, bah, oui, mais en même temps un peu cliché quand même. Hein, mais t'as raison, j'exagère. Et là, on est sur un registre qui est très étonnant parce que, en quelque sorte, ce système concentrationnaire, ce système totalitaire, ouais. Hein, totalitaire, il faudrait dire. Mais en même temps, c'est un peu concentrationnaire parce qu'elles sont enfermées, elles sont.
Elles sont pas libres de leur mouvement.
Mmh. Hein. Et donc, ces servantes qui sont enfermées chez des couples qui sont stériles. Hein, vont en quelque sorte, par moment, en quelque sorte, échapper à cette espèce de privation sensorielle. Hein, on pourrait parler de privation sensorielle. Mmh. Hein, le fait qu'on soit en quelque sorte coupé du monde,
confiné
à l'intérieur d'espace dans lequel on n'est plus amené à ressentir les choses, à avoir des émotions, à avoir une sensibilité en quelque sorte,
oui,
un éveil.
Surtout qu'elles n'ont pas le droit de le dire, elles ne peuvent pas, il n'y a pas de télé, enfin, y a pas de genre, elles ne peuvent pas s'occuper l'esprit par ailleurs. Quoi. Quand Jules, à un moment, est enfermée dans sa chambre pendant une quinzaine de jours, ou peut-être même plus, elle manque de péter les plombs parce qu'elle n'a rien à faire, strictement rien à faire dans sa chambre.
Et il y a cette idée qu'en fait, comme dans la privation sensorielle, il
hein,
y a cette idée qu'elles sont coupées du monde, elles perdent les repères en fait. Il y a une nécessité en fait, et ça petit à petit, leurs gardiens ou ceux qui les tiennent prisonniers comprennent un peu qu'il faut les sortir de là et les amener à voir, comment on pourrait dire, un contact avec la réalité.
Oui. Un échappatoire, une espèce de dehors où elles peuvent se retrouver en quelque sorte, mais pas trop quand même.
Oui, alors...
Parce qu'elles sont obligées toujours de se balader par deux déjà. Elles ne peuvent pas se promener toutes seules. Il faut toujours qu'elles soient deux.
Oui.
Chacune surveille l'autre. Enfin, c'est, théoriquement, chacune est censée surveiller l'autre, en fait.
Oui, c'est assez étonnant. Mais d'ailleurs, au passage, on se demande si ce n'est pas quelque part une critique ou un clin d'œil à nos amis mormons. Ah, nos amis mormons, il faut le savoir. Alors évidemment, moi je ne pourrais pas dire, mais peut-être d'autres diront. Moi, j'estime pas forcément que les mormons soient une secte à proprement parler. Mais en effet, quand on parle avec eux et ils vous abordent dans la rue, hein, ils sont toujours par deux. Mm. Et je me rappelle une fois, parce que je voulais savoir un peu qui ils étaient, et voilà, je voulais parler avec eux. J'avais pris rendez-vous avec eux.
Carrément.
Et à un moment donné, oui, pas carrément, hein, sur l'esplanade, parce qu'ils ne voulaient pas, il faut quand même le dire, ils ne voulaient pas aller dans un lieu, genre un café. Alors j'ai dit, bon, on peut aller dans un salon de thé. Non, pas un salon de thé. Et j'ai dit, mais alors où je peux vous poser les questions où? Et ils m'ont dit, sur un banc public. Ah, j'ai fait, ben moi, banc public, ça me fait penser à Georges Brassens, et puisque bon... Eh bien, du coup, allez, on va aller sur un banc public. Et en fait, j'ai eu une discussion avec eux. J'aurais posé plein de questions, les questions aussi qui fâchent. Et ils m'ont, très, très gentiment, très courtoisement, ils m'ont répondu. Il n'y avait aucune agressivité, etc. etc. C'était plutôt sympathique. Mais à un moment donné, je dois le dire à nos auditeurs, j'ai été frappé par le fait que l'un d'entre eux est allé, donc, il a dû aller aux toilettes. Et je lui ai dit, ah, mais vous allez quand même dans un café. Il me fait, oui, mais c'est juste pour aller aux toilettes. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Hein. Mm-hmm. Et l'autre, j'ai voulu continuer à poser des questions à l'autre, et il m'a dit, je n'ai pas le droit.
Ah oui, ils pouvaient répondre que s'ils ont deux.
Que s'ils sont deux. Et c'est quand même, voilà. C'est pour ça que le film La Servante Écarlate m'a rappelé ce moment où j'ai dit, ben, vous voyez, ça, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas accepter. Ça, c'est quelque chose qui est pas possible. Qui n'est pas possible pour nous. Notre conception de la liberté, alors moi je dis, je ne veux pas porter des jugements extrêmes sur voilà, votre église, votre communauté, etc. Mais le fait que vous ne puissiez pas être libre de vos propos et parler individuellement,
parler librement,
librement sans être sous le contrôle de quelqu'un d'autre, ça pour moi,
c'est
rédhibitoire, c'est impossible. Mmh. Nous ne sommes pas prêts à renoncer à notre liberté. Et même si vous allez proposer plein de choses sympathiques, de sécurité, etc., etc., c'est pas possible. Mmh. Donc on voit à travers ce film-là, La Servante Écarlate, il y a des questions qui sont posées, en fait, aux communautés religieuses, pas forcément. Alors, encore une fois, je dis pas que les mormons, que ce soit clair. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont estimer que c'est une secte. Moi, j'estime que c'est pas une secte. Hein, parce qu'il y a des règles qui sont définies, etc. IP, alors j'ai posé la question par rapport aux mormons, je leur ai demandé, mais j'ai dit, vous donnez quoi en fait? Et ils m'ont expliqué le système de la dîme. Ils donnent le dixième de ce qu'ils gagnent.
Ah oui, ouais. À l'église.
Oui, à leur église. Ils donnent le dixième de ce qu'ils gagnent. Donc ils ne donnent pas tout. Hein, ils donnent le dixième, et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Les membres du peuple, d'accord, donnaient le dixième, la dîme. Donc, en plus de payer leurs impôts aux États-Unis, en plus de ça, ils paient la dîme à leur église. Alors, évidemment, ils me disent, mais vous ne vous rendez pas compte, nous, on paie le dixième, on paie la dîme, mais on a beaucoup d'avantages, on gagne beaucoup de choses quand même. Donc, c'est peut-être beaucoup d'argent, c'est pas rien, mais on a beaucoup d'avantages. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, j'estime que, vu les règles, vu, en fait, le fait que l'argent, en quelque sorte, est... limité en quelque sorte. Hein.
N'est pas pris par l'Église.
Voilà.
Comme dans certaines sectes.
Tout n'est pas pris. Hein. Il n'y a pas une aliénation. Il n'y a pas, etc. Hein. Il y a une forme en quelque sorte de liberté hein, par rapport à l'argent, je parle. Hein. Ils ne sont pas tenus de donner tout et de s'aliéner à leur communauté. Donc ça me paraît être important. En tout cas, dans cette histoire de la servante écarlate, en effet, quand elles sortent. Ces femmes, ces servantes, elles sont toujours deux et elles sont sous le contrôle. Mmh. Hein, c'est pour ça que les gardiens s'appellent les yeux. Et les yeux, toujours le contrôle. Ça renvoie bien sûr à 1984.
Mmh,
à 1984,
Big Brother,
Qui est watching you.
Oui, hein. Et puis les agents de la Manteau Police, enfin la police de la pensée, qui patrouillent dans les rues et qui surveillent.
La société du contrôle.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est tout. Ici, le questionnement qui est posé à travers ce film, hein, c'est aussi cette idée que, en effet, si on est dans un contrôle permanent, en fait, on peut se sentir quelque part, peut-être de manière délirante, protégé. Mais en même temps, c'est le risque absolu. Le risque absolu, c'est quoi, en fait? C'est justement qu'on ne puisse rien avoir à soi. C'est-à-dire qu'on ne peut rien risquer. Mmh. Hein, le risque absolu, c'est de n'avoir aucun risque. Hein, on discutait dernièrement sur ces questions de la démocratie, de la faiblesse de la démocratie, du danger, etc. Parce que il y a beaucoup de risques. Hein, c'est un système fragile avec des faiblesses, etc. Mais malgré tout, les risques que l'on prend. Eh bien, c'est peut-être ce qui fait le prix, la valeur de nos existences.
Tout à fait.
You. chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you.
Alors Alain, c'est... qu'est-ce qu'on vient d'écouter là ?
Eh bien, c'est un morceau de Jefferson Airplane, White Rabbit, le lapin blanc, ouais, qui est un morceau qu'on entend aussi dans la série.
Ah, il y a une bande-son quand même qui est excellente, vraiment, vraiment excellente. Hein. Hein, on a dit la qualité esthétique, on a parlé de la qualité esthétique, visuelle, le soin des images, la bande-son aussi remarquable.
Musicalement. Le choix des morceaux est souvent bien adapté en plus.
Donc, on a dit beaucoup, beaucoup de bien, et puis on continue. Donc, alors, June Osborne, elle est la servante, celle qui devient une servante écarlate et qu'on suit, en fait, particulièrement. Alors, il y a toutes les autres.
Oui, c'est la voix off qu'on entend aussi, qui ponctue tout le film. C'est son point de vue qu'on a tout le long de la série.
Alors, June Osborne, elle est placée dans un couple, en fait, dans une famille, qui n'existe pas encore. Parce qu'en fait, le couple, en quelque sorte, ils aimeraient bien être une famille, parce qu'ils aimeraient bien avoir des enfants, mais
ils peuvent pas.
Alors voilà. En général, on va dire, c'est ça qui est terrible quand même dans la série. Là aussi, c'est une critique, à mon avis, du point de vue des scénaristes. Hein. C'est qu'on soupçonne que c'est la femme qui est forcément stérile.
Alors
que
ça
peut être tout à fait l'homme.
L'homme.
Et pas forcément la femme.
Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on dit à un moment à June Osborne, que ce qu'elle n'arrive pas à mettre d'enfant, ce n'est pas le mari qui sera mis en cause, mais c'est elle.
C'est elle qui va être...
C'est elle qui va avoir des ennuis.
Et donc, je spoil un peu la série. Hein. Donc, à un moment donné, comme ça n'arrive pas qu'elle soit enceinte, et du coup, nous, on peut penser que quelque part, peut-être, dans cette histoire, ce n'est pas Madame Waterford qui est stérile, mais c'est peut-être lui. Peut-être.
Non, mais Madame Waterford, de toute façon, ces femmes-là sont stériles, on le sait, ça. Mais par contre...
Peut-être son mari aussi.
Voilà, parce que ce qu'on ne remet pas en cause, c'est que les médecins ne remettent pas en cause, et d'ailleurs, ils n'examinent pas les hommes.
Forcément, si un stérile, c'est la femme.
Tout à fait. Hein.
C'est ça qui est terrible, parce que dans la réalité, on sait que ce n'est pas forcément les femmes qui sont stériles. Mm. Ça peut être les hommes. Et donc je spoil un petit peu...
L'histoire.
Elle va avoir donc une relation sexuelle, June Osborne, avec
Nick Blaine.
Voilà.
Oui. C'est le chauffeur. Fred Waterford.
Voilà. Du mari, en quelque sorte.
Et c'est quand même la femme Waterford qui organise ce coït, on va dire.
Eh oui, parce qu'en fait, ça n'arrive pas.
Parce qu'elle se rend compte que c'est peut-être bien son mari qui est le problème.
Oui, voilà. Ça n'arrive pas. June n'arrive pas à être enceinte. Et du coup, en fait, tout ce montage, c'est un montage, ne sert à rien. Et elle veut à tout prix avoir cet enfant. Et elle fait ce qu'il faut, en quelque sorte, pour que ça arrive.
Elle demande à Nick de coucher avec June.
Voilà. Donc, en effet, on va avoir donc toutes ces relations forcées qui mettent en fait June dans une situation qui est une situation absolument terrible, parce que sa survie en fait dépend de sa fertilité.
Tout à fait.
Parce qu'on lui fait entendre que si...
Si rien n'arrive,
elle va être éliminée.
Exactement.
Et du coup, elle va
envoyée aux colonies.
Voilà, là où elle va mourir dans une zone qui est extrêmement polluée, ouais, etc.
Toxique.
Et elle ne reverra jamais sa fille. Et ce qui fait tenir, en fait, June... C'est le fait de pouvoir un jour sauver sa fille.
L'espoir de pouvoir revoir sa fille, oui.
Revoir sa fille, la sauver de ce monde qui est un monde de folie.
Canada.
Hein? Et donc, et de gagner le Canada pour retrouver Luc, son mari, hein, le papa de sa fille. Mm. Et donc, c'est ça qui est assez étonnant dans cette histoire-là, c'est donc toutes ces questions qui sont posées et qui mettent en fait June dans une situation qui est une situation impossible. Il faut qu'elle survive. Il faut qu'elle survive pour sa fille. Et elle va devoir accepter, se soumettre donc à tous ces rituels qui lui sont imposés. Mmh. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que cette secte des...
Les fils de Jacob.
J'arrive jamais à retenir le nom de la secte. Ça doit être sûrement révélateur. Je ne vais pas beaucoup les aimer. Et donc, cette secte organise des rituels dans lesquels, en fait...
Une cérémonie, ils appellent ça.
Une cérémonie dans lequel, en fait, la servante écarlate est entre les jambes
de la femme
du mari, d'accord, et pendant l'accouplement.
Pendant que le mari, effectivement, s'accouple avec la servante.
Donc, on prévient nos auditeurs, c'est un peu particulier quand même comme scène, et ça peut choquer.
Il y a ça, et puis ce que ça dit aussi, c'est que cet acte-là doit être purement fonctionnel. Il ne doit pas y avoir de plaisir du tout. Il faut que c'est juste en vue d'avoir un enfant, ce n'est pas du tout pour le plaisir. C'est vraiment un travail, c'est mécanique, c'est fonctionnel, c'est pas du tout vivant.
Oui, alors c'est là encore, on peut penser, c'est une critique là encore de la conception de la sexualité ou de l'amour, du désir
chez
les puritains.
Oui, mais c'est une conception, on va dire, de façade, puisqu'on apprendra plus tard qu'en fait, il existe des bordels dans lesquels se rendent justement les hommes haut placés, les hauts fonctionnaires, qui peuvent se livrer à tous leurs instincts, quoi. Donc,
il y a une hypocrisie.
Une hypocrisie complète, ouais.
On retrouve donc le double langage.
Il faut que, en façade, tout ait l'air propre, lisse, parfaitement moral et dans la lignée de leur interprétation des textes, mais tout en dessous. Parce qu'en plus, ça se passe en souterrain. C'est vraiment sous terre que ça se passe. C'est le bordel en question. Jézabel, c'est qui s'appelle.
Ouais.
Et en souterrain, et ben là, ils peuvent se livrer à tout.
Les hommes.
Oui, les hommes. Les hommes, bien entendu.
Soyons clairs.
Oui.
Ce sont des lieux qui ne sont pas du tout
ouverts
aux femmes.
Non. Hein. Tout à fait.
Donc là encore, on retrouve cette espèce de puritanisme, ce fanatisme en fait religieux qui tend à présenter la sexualité comme un tabou, mais encore une fois, de façade. Alors, June Osborne se retrouve donc dans des relations et avec ce couple qui sont d'une grande ambivalence, d'une grande ambiguïté. Et alors moi je parle pas de June en particulier parce qu'elle cherche à survivre, mm-hmm. mais par exemple Madame Waterford,
ouais.
Hein,
Madame Serena,
Serena cherche à gagner à un moment donné la sympathie de June. Elle cherche à faire comme si elle était gentille, comme si tout allait bien, comme si en fait il pourrait y avoir une forme de
complicité.
Ouais, complicité entre elles.
Mm-hmm.
Hein, et jusqu'au moment où...
Thank you.
Alors Alain, qu'est-ce qu'on écoute là?
Alors là, c'est un morceau de The Knife, Wrap Your Arms Around Me, qui fait partie de la bande-son de la série.
Ouais, encore une fois, bande-son exceptionnelle. Exceptionnelle, vraiment. On ne cesse de faire des compliments sur cette série, mais là, je dois dire que la bande-son, elle est à couper le souffle. Hein. Donc... on était en train de parler, Alain, donc de la servante écarlate et des personnages. Mm-hmm. Hein. Il y a monsieur et madame Waterford, oui, qui sont ceux qui, en quelque sorte, cherchent à avoir un enfant, une famille, et qui utilisent donc June à cette fin. Alors, il y a d'autres servantes écarlates. Hein. Il y a donc ça, c'est ce qui fait aussi la beauté du film, la force, la puissance, la beauté. C'est-à-dire qu'en fait, face à cette communauté de fanatiques, de malades mentaux, il faut dire. Hein. Mmh. Il y a une autre communauté de femmes qui résistent, hein, ces femmes habillées en rouge, ces femmes écarlates, qui sont en quelque sorte forcées, en quelque sorte, de se souder pour arriver à survivre.
Tout à fait, ouais. Hein? Oui. Qui organise une espèce de résistance. D'ailleurs, petit à petit, on comprendra qu'il existe un mouvement de résistance qui est construit par cette communauté de femmes qui s'appelle Mayday. Ouais. Et là, dans laquelle progressivement va rentrer justement Joan Osborne.
Voilà. Et donc, il faut voir que elles vont se retrouver, ces femmes. Il y a des moments où elles se retrouvent, elles sont en groupe. Et alors, il y a des tas de jeux de surplomb, d'images en surplomb, etc., etc. Il y a comme une espèce de chorégraphie de la part du cinéaste, hein, où on voit toutes ces femmes en rouge qui sont comme dans une espèce de rituel et qui forment en quelque sorte, de manière paradoxale, une communauté presque, j'allais dire religieuse, hein, mais tu vas pas aimer ça, Alain, je sais. Une forme de communauté qui résiste de manière très humaine, de manière très vitaliste en quelque sorte, hein, aux oppresseurs.
Ouais.
Hein. Il y a un moment donné où on leur demande, mais ça peut-être que c'est dans la deuxième saison, tu vas me dire, où on leur demande à toutes ces femmes de lapider.
Non, c'est dans la première. Hein,
dans la première.
Oui,
hein,
oui, tout à fait, de lapider Janine.
Hein. De lapider Janine parce qu'elle a voulu se suicider et que c'est quelque chose que...
Ouais, surtout parce qu'elle a mis en danger l'enfant auquel elle a donné vie.
Voilà.
Et c'est ce qui est fou, c'est qu'effectivement, elle renonce à se suicider avec l'enfant, mais elle tente de se suicider, mais il la soigne. Et après l'avoir soignée, ils vont la faire lapider.
Voilà.
Par les autres servantes écarlates.
Et donc...
Et à ce moment-là, il y a un espèce de moment Potemkin.
Voilà.
Où les femmes refusent...
Refusent.
Ouais, les autres servantes refusent de lapider leur consœur.
Donc il y a un moment qui est extrêmement fort, qui est extrêmement beau aussi, qui est super émouvant. Hein. C'est où elles disent toutes à cette femme qui les dirige. Hein. Elles disent « Désolé, tante ».
Tante Lydia.
Tante Lydia.
Ouais, ouais. Hein.
Et donc elles laissent tomber chacune la pierre qu'on leur a mis dans la main. Et elles refusent de tuer leur consœur, en quelque sorte.
Ouais, Janine.
Hein. Janine. Hein. Donc on doit parler quand même, on doit parler Alain... avant de laisser l'antenne, on doit parler de cette femme qui dirige en fait toutes ces femmes écarlates et qui les dirige d'une main de fer.
Tante Lydia, oui, voilà. Oui. Enfin, c'est aussi toute une catégorie sociale. Il y a les servantes écarlates, mais il y a aussi ce qu'ils appellent les tantes. Et là, on suit en particulier Tante Lydia qui suit ce groupe de jeunes femmes qui est donc June Osborne, Emily, Janine, enfin, il y en a quelques autres. Et qui effectivement est une femme très très dure et à laquelle il faut obéir absolument, sinon les conséquences peuvent être catastrophiques. Ça va jusqu'à la mutilation, parce que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour Janine. Hein, on lui a arraché un œil parce qu'elle s'est rebellée. Et des femmes qui lisent, on leur coupe un doigt, si elles récidivent, on leur coupe une main. Enfin, c'est une femme qui recule devant rien.
Et donc, en fait, et c'est ça qui est assez étonnant toujours dans le film et qui est assez troublant. Et c'est que, voilà, c'est des personnages complexes et il y a une ambiguïté.
Oui, il y a une espèce d'ambiguïté parce qu'on a l'impression aussi que Tante Lydia, à travers sa dureté aussi, elle aime ses filles. Elle a une espèce de, je ne sais pas, je dirais, pour pas dire d'empathie parce que
non, ouais.
Elle est quand même assez cruelle avec elle, mais quand elle est sur le pont, effectivement, où Janine va tenter de se suicider, Tante Lydia est en larmes, par
oui.
exemple.
Donc il y a un amour en quelque sorte pour les femmes écarlates qui sont sous sa responsabilité. Ouais. Mais en même temps, c'est un amour qui est
conditionné à leur soumission.
Voilà, uniquement.
Oui, hein. Tout à fait.
Donc il y a une très grande, comment on pourrait dire...
C'est pas des personnages vraiment manichéens.
Non,
fait.
Voilà.
Ils ont, ouais. ils ont tous une complexité. Part d'humanité. Même les Waterford, hein, ils ont quelque chose aussi. C'est quand même des personnages fanatiques, intransigeants, etc. Et ils ont une forme d'humanité, surtout, surtout Serena d'ailleurs, surtout la femme du commandant ouais. Waterford.
Mais même le commandant Waterford.
Il a une part d'humanité.
Ouais, il a une part d'humanité. Il accepte de jouer, de faire des parties de
Scrabble.
De Scrabble avec,
June. Avec June. Alors que c'est parfaitement interdit pour les femmes de jouer. Avec
de jouer. Et donc, en quelque sorte, on voit que ce monsieur Waterford est prêt à transgresser
certaines règles,
à prendre des risques. Et donc, en quelque sorte, il reste malgré tout humain.
Il y a une part d'humanité.
Une part d'humanité.
Lui. Tout à fait. Hein.
Donc ça, c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt du film. Mm. L'intérêt du film, c'est que ces personnages sont complexes.
Ils sont à la fois détestables et voilà. En même temps, on voit qu'il y a quelque chose d'humain.
Il y a quelque chose d'humain et que, il y a peut-être la possibilité pour June de jouer sur ça pour en fait échapper à leur emprise. Mmh. Hein. Ne plus être simplement dans une situation dont on parle aujourd'hui, le consentement.
Ouais. Hein.
C'est une situation dans laquelle des femmes sont, ou des personnes, sont sous emprise d'autres personnes. Ici, le système totalitaire.
Hein. Oui, c'est une emprise totale, voilà. Comme son nom l'indique.
Des enfants de...
Des fils de Jacob.
Des fils de Jacob. Je vais finir par retenir le titre de la secte qui prend le pouvoir. Alors, encore une fois, il faut dire à nos auditeurs que le film est terrible et extrêmement dur, mais qu'il y a des très belles images, des images d'une grande sensualité. Il y a des moments d'humanité qui sont très forts, des choses troublantes, des choses ambiguës.
Des échappées.
Des échappées, etc. Mm. Donc, ce n'est pas simplement un film froid, implacable, qui serait une démonstration, en quelque sorte. Mm. Hein. Il y a une véritable expérience que l'on va faire, nous, spectateurs, dans l'identification avec ces femmes écarlates, qui est assez étonnante, qui est aussi une expérience dans laquelle on va éprouver le prix, peut-être, la valeur de nos libertés.
Oui, c'est certain. Hein ? C'est certain. Il y a un contraste flagrant qui se dessine entre ce monde autoritaire et le nôtre, même s'il est vraiment loin d'être parfait.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, Alain. Bonsoir à vous et
au revoir.
À bientôt.
À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur ?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie ? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.